Mardi 12 mai 1925. Babou était inconscient quand nous l'avons évacué du camp 3 hier soir. Les autres étaient sortis de leur tente en nous entendant, réagissant d'abord au rire de Babou, puis à nos appels à l'aide, et nous nous sommes agenouillés autour du corps du Sherpa qui gisait, inconscient, bras et jambes écartés. Reggie a jeté un coup d'œil à la bosse et au bleu qui s'étendait sur la tempe de Babou, lancé la trousse de premier secours au diacre, pointé le doigt vers deux autres Sherpas en leur donnant des ordres en népalais, puis couru avec eux vers les tentes pour fabriquer un brancard. Le diacre s'est accroupi auprès de Babou et, lui soulevant délicatement la tête, il a appliqué deux compresses sur les plaies qui saignaient abondamment. Puis, avec des gestes rapides et précis, il lui a enroulé une bande de gaz autour du crâne qu'il a coupé à l'aide de son canif. « Est-ce que ça va aller ?» ai-je demandé. Tout en moi, jusqu'à ma voix atone, trahissait ma culpabilité. Je me sentais responsable de l'accident de mon porteur. Jean-Claude avait l'air coupable, lui aussi. « On ne peut jamais savoir avec les blessures à la tête », a répondu le diacre. Il tenait Babou par les épaules et auscultait d'une main légère la nuque et le dos blessé jusqu'au coccyx. « Je ne crois pas que la colonne vertébrale soit touchée. Nous pouvons le déplacer. » Le mieux est de le transporter au camp de base pour que le docteur Passang puisse l'examiner le plus vite possible.
C'est vraiment prudent de le bouger ?
A demandé JC. Il m'avait un jour expliqué qu'on enseignait aux guides de Chamonix de ne pas déplacer une victime s'il y avait un risque de blessure à la colonne vertébrale ou au cervical. Le diacre a hoché la tête. Il n'a pas le cou brisé d'après ce que je sens. Son dos paraît intact. Je pense qu'il vaut mieux le déplacer plutôt que de le laisser passer la nuit ici. Reggie et Nima Tsering sont revenus avec le brancard de fortune, fait d'une double épaisseur de toile fixée à deux piquets d'1,80 m. Nous avons besoin de volontaires pour le descendre, a dit le diacre. 6 hommes, je pense. 4 pour porter et 2 pour les relayer.
Nous allons le porter.
JC et moi avons répondu dans un pathétique ensemble. Pemba, Dorjay, Tenzing et Nima, vous descendez avec les Saïbes, a ordonné le diacre. Reggie a vite traduit pour les 3 Sherpas qui ne parlaient pas anglais. J'ai vu qu'elle avait aussi apporté 2 lanternes et 2 lampes frontales. Nous nous sommes accroupis à côté de Babou et en comptant jusqu'à 3 avec une infinie douceur, nous l'avons soulevé de la neige pour le déposer sur le brancard. Il y avait encore des traces de sang dans la neige et les bandages de Babou en étaient déjà imprégnés. En silence, Reggie a tendu les lanternes à Pemba et Dorjay et nous a donné les lampes frontales à JC et moi.
Tejbir,
a-t-elle dit, s'adressant au plus grand des Sherpas.
Tu pars devant aussi vite que possible. Dis à ceux des camps 2 et 1 qu'on aura peut-être besoin de volontaires pour relayer les porteurs. Ne perds pas de temps dans chaque campement. File aussitôt au camp de base et demande au docteur Passang de monter à la rencontre des porteurs. Décris-lui précisément les blessures à la tête de Baburita et comment il se les est faites. Il y a une 3e lanterne à l'entrée de la grande tente. Prends-la en partant.
Tejbir a hoché la tête et il est parti en courant dans la pente. Il a saisi la lanterne en traversant le camp sur la moraine couverte de neige et quelques secondes plus tard, il disparaissait derrière les pinacles de glace pour rejoindre la piste du glacier. Jean-Claude a attrapé le piquet avant gauche et j'ai pris celui de derrière à droite. Nima Tsering s'est placé devant et Tenzing Bhotia avec moi derrière. À 3, nous avons soulevé le brancard à hauteur de taille. Baburita ne semblait rien peser du tout. Nous vous suivrons dès que nous aurons trié les charges pour demain, dit le diacre. Dites au docteur Passang que je redescends tout le monde au camp 1 ou au camp de base. La traversée du glacier avait été éreintante, surtout à la fin de cette longue journée d'escalade. Avant que nous partions, Reggie avait confié à Pemba un appareil à oxygène avec 3 bouteilles pleines sur le châssis. L'idée était que si l'un de nous fatiguait, il céderait sa place de porteur à Pemba ou Dorjay et respirerait un peu d'air anglais. Baburita serait alimenté en oxygène pendant toute la descente. Cela n'ajoutait que 10 kilos au brancard. Mais ni Jean-Claude ni moi n'avons faibli pendant les 4 heures, alors même que les 4 Sherpas se relayaient. Une fois ou deux, après un passage difficile, Pemba a tenu le masque à oxygène sur le visage de JC, puis le mien, le temps que nous buvions un peu du riche air anglais, avant de poursuivre notre route. Baburita paraissait endormie sous son masque en peau de chamois. Le docteur Passang nous a retrouvés au camp 1 et nous a demandé de déposer le brancard sur des caisses pour qu'il puisse procéder à un premier examen du blessé à la lumière des lanternes.
Je crois que Monsieur Deacon a raison.
Il n'y a pas de blessure évidente de la colonne vertébrale ou des cervicales, a dit Passang.
Mais nous devons tout de même le descendre à plus basse altitude.
Pouvez-vous continuer à le porter jusqu'au camp de base ou voulez-vous que je demande à d'autres porteurs ?
Jean-Claude et moi n'avions aucune intention de laisser quiconque prendre notre coin du brancard. C'était une attitude absurde, évidemment, cette façon de nous punir nous-mêmes, mais je pensais alors, et je le pense encore aujourd'hui, que nous méritions, ou du moins que je méritais, cette punition. Si nous n'avions pas agi comme des gamins stupides, si je n'avais pas commencé avec ma vantardise digne d'une cour de récréation, Babu Rita aurait été en train de dîner au camp 3 et de rire avec ses amis. Nous sommes arrivés au camp de base un peu avant 23 heures. Les rideaux latéraux de la tente infirmerie étaient relevés et la nuit était étonnamment chaude à cette altitude de 4800 mètres. Il n'y avait pas de vent. Six lanternes à essence sifflaient, suspendues à l'avant-toit de la tente, et j'ai compris pourquoi le docteur Passang voulait procéder aux soins médicaux les plus sérieux ici, où l'air était relativement plus épais et plus chaud, et la lumière bien meilleure que dans tout autre camp. Les quatre Sherpas qui étaient descendus avec nous se sont retirés dans leur tente, et JC et moi nous sommes écroulés sur le sol de l'infirmerie, pendant que Passang examinait plus attentivement les blessures de Babu Rita. Mes bras étaient si fatigués que j'avais l'impression que je ne pourrais plus jamais les soulever. Pendant les 30 minutes d'examen, durant lesquelles le docteur Passang a pris la tension et le pouls de Babu, entre autres mesures vitales, avant de nettoyer ses plaies et de changer ses pansements, aucun mot n'a été prononcé. Enfin, quand le médecin a eu installé un masque à oxygène sur le visage du blessé en réglant le débit au maximum, remonté deux couvertures jusqu'à son menton et éloigné la lanterne et les deux miroirs qu'il avait utilisés, je lui ai demandé « C'est grave, docteur Passang ?»
Sa respiration est laborieuse et superficielle. Le pouls est faible. Je suis presque sûr que Babu souffre d'un hématome sous-dural, un caillot sanguin dans le cerveau. Là où sa tête a heurté le bloc rocheux. « Vous pouvez faire quelque chose ?»
a demandé Jean-Claude. Je savais que le guide avait vu des hommes mourir d'embolie cérébrale, causée par des blessures ou le mal aigu des montagnes qui générait des caillots de sang dans les poumons ou le cerveau. Pour moi, ce n'était qu'une expression. Le docteur Passang a soupiré.
« L'oxygène devrait aider un peu. » Dans un hôpital, je ferai de mon mieux pour identifier la localisation du ou des caillots. Et ensuite, si le patient ne se réveillait pas, ou si ses signes vitaux s'affaiblissaient, j'essaierai peut-être de pratiquer une craniectomie. Ici, dans ces conditions, le mieux que je puisse faire est une trépanation à l'ancienne.
Quelle est la différence ? Ai-je demandé. Passang a passé sa grande main au-dessus des bandages de Babu.
Pour une craniectomie, je raserai cette partie du cuir chevelu et pratiquerai une incision, sans machine à rayon X. Je devrais essayer de deviner où est le caillot pour savoir où ouvrir. Ensuite, je percerai un petit trou dans le crâne et en retirerai un morceau, ce qu'on appelle un volet osseux. Puis j'enlèverai tous les fragments d'os qui appuient sur le cerveau de Babu et aspirerai le sang accumulé ou solidifié. Si le cerveau est enflé à cause de la blessure, je laisserai peut-être le volet osseux sorti. Dans le cas contraire, je remettrai ce volet osseux à l'aide de petites plaques ou de fils métalliques ou de points de suture.
Ça m'a l'air assez primitif. Ai-je réussi à dire en réprimant un haut le cœur ? Passang a secoué la tête.
C'est la version moderne. Dans les conditions qui sont les nôtres et avec les instruments dont je dispose ici, je devrais faire une trépanation.
Qu'est-ce que c'est ? Passang a paru se perdre dans ses pensées. Enfin, il a dit,
« La trépanation se pratique depuis l'époque néolithique. Cela consiste à percer un trou dans le crâne du patient pour exposer la dure mère, soulageant ainsi la pression que l'hémorragie, le caillot de sang ou les fragments d'os peuvent causer.
J'ai apporté un trépan.
Pasang s'est approché de sa petite caisse de matériel chirurgical et en a sorti un instrument.
Mais ce n'est qu'une chignole, ai-je dit.
Pasang a hoché la tête.
Comme je le disais, ce genre d'instrument de trépanation est utilisé depuis des siècles. Ça marche parfois.
Comment refermeriez-vous un trou comme ça ?
A demandé Jean-Claude. J'entendais le dégoût dans sa voix. Un tel trou est plus grand que celui du volet osseux.
Mais je pourrais utiliser des fils de suture pour remplacer le disque de matériau crânien,
voire même visser quelque chose d'aussi prosaïque qu'une pièce de monnaie de bonne taille.
Le crâne n'a pas de terminaison nerveuse, bien sûr.
C'est ce que vous allez faire,
ai-je demandé.
Le trépaner? Uniquement si c'est absolument nécessaire.
Une telle intervention chirurgicale à cette altitude, et dans ces conditions d'hygiène insuffisantes, serait très, très dangereuse. Et comme son crâne a heurté le bloc rocheux au moins en 3 endroits, je ne saurais pas où se trouve le caillot de sang.
Je n'aimerais pas du tout devoir percer 3 trous dans le crâne de Baburita sans trouver le bon endroit.
Pardonnez-moi, a dit Jean-Claude en français, et il a quitté la tente. Je ne me doutais pas que mon ami était aussi délicat.
Nous allons attendre 10 ou 12 heures, a dit Pasang. Si Babou sort du coma, nous prendrons soin de lui jusqu'à ce qu'il puisse voyager sur une civière et le transporterons à Darjeeling aussi vite que possible.
J'ai songé à notre randonnée de 5 semaines pour venir jusqu'ici. Il y avait des itinéraires plus courts pour arriver directement dans le nord du Sikkim, mais il fallait passer par des cols très hauts, ouverts seulement durant de brèves périodes pendant la mousson. Ni le chemin le plus long par les villes tibétaines crasseuses dans les collines, ni les raccourcis par de hauts cols dangereux sous la menace du blizzard, ne semblaient indiquer pour un homme souffrant d'une blessure cérébrale ou d'une récente trépanation. Jean-Claude est revenu avec les 2 sacs de couchage que nous avions laissés au camp de base.
« Peut-on dormir sur le sol de l'infirmerie cette nuit, docteur Pasang ?»
a demandé mon ami. Pasang a souri.
« Nous pouvons faire mieux que ça. Il y a 2 lits de camp là-bas, derrière le rideau, à côté de l'endroit où sont installés Angshiri et Lakpa Yeshe. Je vais vous aider à les transporter ici. Vous pouvez passer la nuit auprès de Baburita. »
Je me réveille tard, après le lever du soleil, avec la terrible impression que quelque chose ne va pas. Jetant un coup d'œil par l'ouverture de mon sac de couchage, je vois que Baburita est assis, les yeux ouverts, un large sourire aux lèvres. Pasang se tient à proximité, les bras croisés. Je secoue JC dans le lit de camp à côté du mien.
« Oh, Sahib Jake, Sahib Jean-Claude !»
s'écrie Baburita.
« Je ne me suis jamais autant amusé !»
Je réussis à lui retourner son sourire. J'y sais le dévisage.
J'ai tellement de chance de mourir si près du bien-aimé Dzatrul Rinpoche,
poursuit Baburita.
Je vous demande de laisser sa sainteté l'abbé du Rongbok décider le genre de funérailles que je dois avoir.
Personne ne va mourir.
Je m'interromps en voyant que Baburita est retombée sur la haute table rembourrée où Pasang l'a veillée cette nuit. Les yeux du Sherpa sont toujours ouverts, son visage toujours souriant. Mais il ne respire plus. Le docteur Pasang tente de le ranimer pendant d'interminables minutes, mais le corps ravagé de Babou et son esprit admirable ne répondent plus. Il est parti.
Je suis désolé,
dit enfin le docteur Pasang. Il ferme les paupières de Babou. Je ne peux pas m'empêcher de regarder Jean-Claude. Je lis dans ses yeux qu'il partage mon sentiment. Nous avons tué cet homme merveilleux avec nos bêtises puériles et notre manque de bon sens.